Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Pour ce Radio Bark, nouvelle formule, troisième et septième saison, nous commençons avec alors Guillaume Heras, bonjour Guillaume Heras.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour vous, Jean-Claude.
Je rappelle succinctement, mais on va revenir en détail sur tout cela, que vous êtes maire de Saint-Marcel-sur-Aude et vous êtes également depuis quelques mois premier vice-président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Donc sur ces deux postes, on va y revenir successivement. Peut-être pourra-t-on, Guillaume Heras, commencer par votre commune, puisque il faut d'abord être élu municipal pour devenir élu communautaire, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. Mais je rappelle aussi, et j'apprécie que vous soyez là aujourd'hui, parce que j'ai souhaité, dans ce début de cette nouvelle formule, avoir des invités qui, ces derniers temps, ont un peu créé la surprise sur la Narbonnaise au niveau politique, parce qu'ils ont été élus, alors tardivement, mais ça c'est le Covid, on n'y peut rien, tardivement, mais à des fonctions peut-être où on ne les attendait pas, et en tout cas à des fonctions importantes. Donc voilà Guillaume Heras, après Didier Mouly, après Hélène Sandranier, merci d'être ici et de jouer ce rôle de premier vice-président. Saint-Marcel-sur-Aude, alors c'est votre deuxième ou troisième mandat ?
C'est mon deuxième mandat, c'est le début de mon deuxième mandat.
Début du deuxième mandat. Alors c'est une commune, bon, on connaît, qui n'est pas très loin de Narbonne, qui a, comme certaines autres, la particularité d'avoir, enfin d'être inondable en tout cas, une partie de son territoire. Et effectivement, d'ailleurs, malheureusement, souvent quand on parle de Saint-Marcel, c'est parce qu'il y a eu les pieds dans l'eau. Et forcément, ça vous occupe beaucoup. Dites-nous quelles sont les solutions possibles, Guillaume Heras, et sur lesquelles vous travaillez.
Alors déjà, en tant que maire, je ne peux que réagir quand vous dites qu'on ne parle que de Saint-Marcel sur les pieds dans l'eau.
Je titille.
Oui. Non, on parle aussi d'un dynamisme économique, on parle aussi d'une attractivité.
On va y revenir après quand même.
D'accord. On parle aussi d'un tissu social et associatif intéressant. Mais oui, on a 20% des habitations de la commune, le bas du village qui est inondable, hein, et nous sommes quelques jours après l'anniversaire des 2 ans de 2018 qui nous ont meurtris à tous collectivement et surtout ceux qui ont eu de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Saint-Marcel a toujours été inondable.
Alors rappelons quand même que vous avez 3 cours d'eau naturels sur la commune.
On a au-dessus du village donc l'Orbieu, la mouchure de l'Orbieu. Au-dessous, on a la mouchure de la Cesse. On a le canal de Jonction plus bas et d'ailleurs qui fait digue et avec un déversoir. Donc oui, effectivement, et puis l'Aude qui récupère toutes les eaux du bassin versant. Voilà.
Oui, donc c'est un endroit sensible de par la configuration aquatique.
C'est un endroit sensible, et quand tous les éléments sont contre nous, un fort marin et puis des précipitations sur les deux bassins, à la fois les Corbières et le Minervois et dans la Haute-Vallée, quand tous les volumes d'eau passent en même temps,
forcément, ça
monte et ça déborde. Voilà.
Mais ça n'est qu'une partie du village, hein, vous dites.
C'est le bas du village, c'est 20%, ça représente entre 150 et 200 habitations sur les 1000 habitations du village.
Alors que faire? On ne peut pas être fataliste et dire on aura les pieds dans l'eau à chaque fois.
Il y a déjà la culture du risque.
Oui, qu'il
se
faut
préparer,
s'approprier.
Voilà, ouais. Qu'il faut s'approprier. C'est pour ça que chaque année, on revoit notre plan communal de sauvegarde. C'est pour ça qu'on lance des exercices d'alerte. C'est pour ça qu'on est au contact de la population et on fait attention à avoir les coordonnées de chacun, identifier les personnes à risque et puis un état de veille aussi, hein, avec la surveillance des cours d'eau, avec les services de l'État. Puis, on a aussi, après 2018, pu convaincre les autorités de se pencher réellement sur Saint-Marcel. Et là, un comité de pilotage va être lancé sur une étude. Une étude, donc, de ces phénomènes d'inondation et voir ce qui peut être fait pendant un an des scientifiques, des bureaux d'études vont travailler pour voir comment se comporte chacun des cours d'eau et proposer des solutions sur l'inondabilité.
Alors, sous la tutelle de l'État, ça ?
Sous la tutelle de l'État, du SMAR et du syndicat d'aménagement hydraulique. Le SMAC qui couvre un peu ce bassin versant.
Le SMAR étant une institution audoise, je crois.
Voilà, tout à fait. Oui. C'est le syndicat mixte des milieux aquatiques et rivières qui coordonne tous les organes
Donc,
de gestion.
Pour le moment, en attendant, ce que vous faites, c'est un système d'alerte de plus en plus performant pour qu'au moins les gens aient le temps de voir venir.
Exactement. Exactement. Et puis, une nouveauté aussi, c'est que des moyens de protection individuelle sont financés par l'État, donc c'est chaque propriétaire en zone inondable peut se tourner vers le SMAR et demander des moyens de protection individuelle, donc des bâtards d'eau, des clapets anti-retour, mais bien sûr qu'ils ne fonctionnent que à un certain niveau d'inondabilité. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de retarder, de protéger sur des petites inondations et puis d'avoir des solutions pour ne pas être à risque.
Voilà. Oui, donc c'est pas forcément des solutions de rechange, mais c'est des petites solutions lorsque les choses ne sont pas trop dramatiques. Voilà. Alors, vous disiez, Guillaume Heras, que Saint-Marcel, ça n'est pas que les pieds dans l'eau. Effectivement, d'ailleurs, vous avez inauguré récemment un gros équipement sur les lieux de l'ancienne cave coopérative.
Oui, effectivement, sur les lieux de l'ancienne cave coopérative.
Et ce qui est un symbole aussi, peut-être.
C'est un symbole aussi. C'est on le sait, la viticulture, c'est un de nos moteurs économiques. Et même s'il y a eu des regroupements, il y a des caves coopératives qui deviennent des friches industrielles. Et de cette friche industrielle, on en a fait un bâtiment coopératif. D'ailleurs, on a souhaité l'appeler la coopérative. Et puis, à l'intérieur, on a créé une maison des jeunes et de la culture, enfin, un bâtiment pour eux, une salle des fêtes, une salle des associations,
parce que vous aviez beaucoup
un club
de surface,
sportif.
Apparemment.
Ah oui.
C'est un vrai centre.
Il y avait 4000 mètres carrés de bâtiments industriels.
De bâtiments, oui.
Que nous avons donc rasé et reconstruit, 1200 mètres carrés donc de bâtiments. Sur lequel la volonté est que les jeunes se retrouvent, se rassemblent.
Oui, donc c'est un peu, ça devient le quartier culturel.
Culturel et sportif, oui.
Et sportif,
oui,
bien entendu.
Oui. Oui, nous le souhaitons.
Oui, voilà.
Sans pour autant oublier la partie du vieux village qui a besoin d'être constamment aménagée, vitalisée et donc embellie, nettoyée. Voilà. Donc il faut constamment animer ces parties du village, ne pas investir que dans une
et
en oublier
une
autre.
Évidemment.
C'est tout l'enjeu. Voilà.
Mais à propos de viticulture, puisqu'il y a eu fusion et disparition donc de la cave de Saint-Marcel elle-même, Saint-Marcel a fusionné avec qui ? Où les viticulteurs vont-ils apporter leurs raisins aujourd'hui ?
À Canet. L'outil de vinification est à Canet, et donc c'est le regroupement de plusieurs communes. Canet, Villedaigne, Ressac, Saint-Nazaire, Saint-Marcel. Ventenac aussi, une partie.
Alors, une question qu'on pose souvent à des maires de communes qui sont pas loin d'une ville, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre commune ? Est-ce que vous voulez en faire ? Alors, si on dit une cité dortoir, tout le monde dit non, évidemment. Mais ça, encore faut-il qu'il y ait de véritables volontés, par exemple, de limiter l'expansion. Quel est votre regard là-dessus, monsieur le maire de Saint-Marcel ?
On ne peut pas nier qu'une grande partie du travail se fait à Narbonne. L'intérêt, c'est que les échanges entre Narbonne et les villages soient cohérents et que la vie aussi se fasse sur les villages. Pour cela, il faut des équipements, il faut des structures, des associations, de la culture.
Une vie.
Bien sûr.
Ouais. Mais voilà. Certains maires en veulent toujours plus. C'est-à-dire, il faut un peu la course au lotissement, par exemple.
Alors, nous sommes élus sur un programme d'un développement modéré.
Oui, voilà.
Nous allons réviser le plan local d'urbanisme. Le précédent arrive à terme, c'est 15 ans. Et dans ce plan local d'urbanisme, nous allons réfléchir sur nos infrastructures, sur effectivement l'endroit où vont travailler les gens, le plan de déplacement urbain. Nous allons réfléchir sur nos écoles, nous allons réfléchir aussi sur nos équipements sportifs, associatifs. Et nous avons aussi entendu beaucoup la population, donc avec une croissance modérée. Il faut pouvoir accueillir les jeunes et donc les personnes qui veulent arriver sur le village ou y rester et trouver de quoi construire, de quoi se loger. Mais il faut aussi entendre le fait de garder une particularité de village. On choisit d'aller dans un village, on choisit d'y rester. Mmh. Et donc, tout ce mode de vie, nous souhaitons le conserver. Voilà. Mmh. Pour autant, on ne peut pas rester bloqué, on ne peut pas se tourner sur soi-même.
Forcément.
Et c'est là où l'échange avec l'agglomération intervient, parce que il y a un schéma de cohérence territoriale.
Oui.
On sait que notre agglomération
qui est communautaire.
Tout à fait. On sait que notre agglomération est dynamique. On sait que nous prenons en moyenne 1200 habitants par an.
Voilà, mais que ça soit sur l'agglo et pas seulement sur un seul endroit, c'est votre souhait, si je comprends bien.
Bien sûr, ouais. il faut partager ça, être cohérent. Donc ça fait 1,2-1,3% par an. Et donc, il faut accompagner ce mouvement.
Pour vous, voilà, c'est ce qui est sain pour affronter l'avenir.
Pour moi, la vérité est dans la mesure.
Voilà. Bon, on va conclure sur cette maxime de grand sage. Merci, monsieur le maire. On vous retrouve après une pause. Cette fois-ci, premier vice-président de l'agglomération du Grand Narbonne.
Merci.